5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Bonjour à tous, bonjour Jean-Michel.
Bonjour Gérard.
Cette émission est consacrée à un événement particulièrement émouvant, exceptionnel. Enfin, je ne sais pas quels les qualificatifs il faut utiliser. C'était il y a 50 ans, le 21 juillet 1969. Il était 2h56 en France, c'est ça Jean-Michel ?
Tout à fait. Et il était 21h56 à Houston, compte tenu du décalage horaire.
Donc en pleine nuit chez nous, un engin humain se posait sur la Lune. Le LEM à l'UNICEF.
Voilà.
Donc, il y a 50 ans, cette émission, c'est le cinquantenaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que l'on peut dire sur cet événement?
Alors, je peux dire tout de suite ce que vous l'avez dit en début d'émission, ce côté émotionnel, hein, cette grande émotion qui a résonné sur la planète, dans tous les pays du monde. Parce que, souvenez-vous, à l'époque, nous n'avions qu'une chaîne de télévision en noir et blanc, quelques radios, et dans les autres pays, c'était pareil. Mais ce jour-là, beaucoup, des millions de téléspectateurs étaient soit à l'écoute, soit à regarder l'image, et pour vivre en direct cet événement exceptionnel.
Bon, il faut dire que personne n'y croyait vraiment, même si on y était un petit peu préparé, parce que la Lune, c'était quand même quelque chose.
On y était préparé, les Américains le savaient, ils avaient un petit doute du côté soviétique, hein, puisque...
C'était un peu la course.
Ce même jour, hein, les Russes avaient lancé une sonde en direction de la Lune, alors on ne savait pas si c'était artificiel, s'il y avait du monde. Voilà, il y avait beaucoup de questions qui se posaient, mais les Américains savaient qu'ils étaient capables, ils l'avaient répété dans les missions Apollo précédentes. Donc, ils avaient confiance en leurs deux pilotes, donc Neil Armstrong, Cape Aldrin, et Michael Collins, bien sûr, qui lui restera en orbite lunaire.
Voilà. Alors, peut-être tous les moins de 20 ans qui nous écoutent ont peut-être du mal à imaginer que notre génération a été émue à ce point-là. Je ne sais pas ce qu'il faudrait se passer.
Mais cette émotion, parce que c'était la première fois d'ailleurs qu'on quittait l'orbite terrestre,
hein,
qu'on allait se poser sur une planète donc du système solaire, puisque la Lune est une planète du système solaire, c'est le satellite naturel de la Terre. Et comme on dit souvent, même si déjà en 1969 on avait lancé pas mal de satellites artificiels autour de la Terre, c'est la première fois que les hommes partaient aussi loin.
Ouais, demandez-nous la Lune, on vous l'a donné. Donc voilà, émotion totale. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Mais parlons peut-être un petit peu, même rapidement, de l'avant. Avant d'arriver à Apollo 11, il y a eu un certain nombre de missions qui ont préparé.
Alors les programmes, on a eu l'occasion d'en parler dans de précédentes émissions, Mercury, Gemini, Apollo. On va rapidement résumer. Hein, c'est d'abord se mettre en orbite autour de la Terre, voir comment l'homme peut vivre autour de la Terre, pouvoir s'accrocher d'un engin à un autre. Et une fois qu'on maîtrise un petit peu toute cette technologie, qu'on sait qu'on peut passer d'un vaisseau spatial à une autre en orbite terrestre, eh ben, on va essayer d'aller faire le tour de la Lune. Alors, bon, première mission Apollo 8, c'était au moment de Noël en 1968, on a eu l'occasion d'en parler. Ensuite, on va répéter l'alunissage, mais en orbite terrestre, se décrocher le LEM, le raccrocher au vaisseau spatial Apollo, voir que tout fonctionne bien donc en orbite terrestre. Et puis finalement, donc mission Apollo 10, hein, et puis, non, mission Apollo 9, Apollo 10, on va aller faire le tour de la Lune.
On a fait le tour de la Lune.
On va pas s'y poser.
On a fait comme si on allait se poser.
Comme si on allait se poser. Grosse frustration pour les hommes qui étaient dans le vaisseau spatial. Et puis on sait qu'on peut s'approcher de la Lune, qu'on peut presque s'y poser. Et c'est ce qui va arriver pour Apollo 11.
Apollo 11. Il y a eu quand même des drames aussi dans cette histoire.
Alors, dans le programme Apollo, ce qu'on a renommé la mission Apollo 1, avec les astronautes Grissom, White et Chaffee, qui sont morts carbonisés dans leur capsule sur le pas de départ, hein, c'était simplement dans un exercice, puisqu'à l'époque, la NASA utilisait de l'oxygène pur, il y a eu un court-circuit, et ces hommes-là sont morts, on va dire, grillés hein, par un gros court-circuit.
Voilà, donc, premier pas d'un homme, premier pas de l'homme, mais derrière, ce premier pas, il y a une quantité de gens qui ont travaillé.
Et dans le badge Apollo, il y a trois petites étoiles en honneur de ces trois astronautes.
Alors, on va raconter ce voyage exceptionnel. Nous sommes le 16 juillet 1969.
C'est l'heure du départ.
Cap Kennedy.
Voilà.
Cap Canaveral à l'époque.
Oui.
Et une fusée d'école.
Alors pour Armstrong, Aldrin et Collins, c'est la séance d'habillage, hein, très très longue. Donc on enfile les sous-vêtements, on fait toute la préparation, on vérifie toute la tenue. Ensuite, la combinaison spatiale, l'équipage d'autonomie en cas de souci. Hein. On voit leurs petites valises qui sont avec le cap qui les relaie en combinaison spatiale. Je pense que tous nos auditeurs ont vu ces images au moins une fois.
On a vu ces images et puis d'autres.
Et d'autres fois à la télévision.
Hein. Le lanceur, c'est...
Alors l'énorme fusée Saturn V, 150. 15 mètres, 2900 tonnes de poussée. On dit qu'elle consommait pratiquement un camion-citerne à la seconde au décollage.
Seconde, voilà, d'accord, donc voilà. C'est un engin, c'est la technologie, j'allais dire.
La technologie de l'époque, bien aboutie, fiable, puisque bon, il y a eu toutes les missions Apollo, il n'y a pas eu d'échec, hein, tout s'est bien passé. Et là, ces hommes-là sont relativement calmes au moment de partir. Et au moment du décollage, leur pouls ne va pas monter très très haut. Bien sûr, aux alentours de 120 battements par minute, mais ce n'est pas énorme.
Ils savaient depuis longtemps qu'ils allaient partir, qu'ils seraient les premiers.
Alors le choix a été difficile. Hein. Donc le choix des astronautes, parce qu'il y avait toute une panoplie d'astronautes à la NASA à cette époque-là. Alors qui va y aller? Ceux qui ont fait Apollo 8, Apollo 9, Apollo 10. Et puis bien sûr il y a la checklist santé qui est très importante. Hein. Au dernier moment, un petit rhume, même si ça s'entend à l'antenne, un petit rhume, les astronautes, tout de suite, ils sont écartés du vol parce qu'un petit rhume peut devenir une grippe après en partant en voyage spatial.
Oui, sur Orion, chemin de l'espace, même avec un petit rhume, comme vous Jean-Michel aujourd'hui, on vous garde. Donc ces trois hommes, on redit leur nom calmement.
Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin.
Sont définis le rôle des uns et des autres. Est-ce que l'on sait dès le décollage que celui qui doit descendre...
Tout à fait. On sait que Buzz Aldrin sera le pilote du LEM, que Neil Armstrong sera le commandant et que Michael Collins restera en orbite autour de... Il sera ingénieur de vol et il restera en orbite autour de la Lune.
Voilà. Donc
alors, tout ça, je veux dire, on le dit rapidement, mais si on savait toutes les procédures, tous les entretiens, parce que il y a le côté physique, mais il y a le côté psychologique aussi.
Hein.
Donc Neil Armstrong est quand même quelqu'un qui a un calme extraordinaire, peu bavard, hein, et on le reconnaissait, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais très concentré sur ses tâches.
Voilà. D'une manière générale, depuis, on l'a vérifié, tous ceux qui partent dans l'espace sont des gens particulièrement calmes et prêts à faire face à tous les aléas.
Toute éventualité.
Tout peut arriver.
Parce que les tests psychologiques ou physiques sont très très importants et vraiment, c'est une épreuve de longue haleine.
Donc Cap Canaveral, ça décolle et on va voir plus tard un petit peu ce qui va se passer dans ce voyage. Jean-Michel, une fois parti, comment ça se passe? Va-t-on dans la Lune?
Alors, ce train, un vaisseau Apollo avec le LEM et tout, module de commande, module de transfert, LEM, tout est accroché. Donc, on va faire un tour et demi de la Terre. Et puis là, on va prendre un point d'injection pour se mettre en route vers la Lune.
Donc on décolle.
On décolle.
On sort à une certaine altitude. On échappe à quelle
On est à 300-400 km de la Terre. Là,
voilà.
Pour l'instant, c'est les orbites classiques.
Peu plus bas que la station spatiale actuelle.
Voilà. Et là, donc on va se mettre très rapidement en orbite lunaire.
Voilà, donc on fait un tour et hop.
C'est le transfert. Le transfert. Donc il y a tous les termes techniques du côté de la NASA pour le transfert en direction lunaire.
Hein. D'accord.
Voilà. On va le dire en français.
En français moyen, combien de jours?
Alors, on est parti de 16, on arrivera le 20 au soir ou le 21 dans la nuit, hein, donc suivant notre...
Alors, on arrive à proximité de la Lune.
Alors, il y a une chose qui va se passer, c'est que donc, une fois qu'on va prendre sa vitesse de croisière, la vitesse va augmenter rapidement. Elle augmente jusque vers 39 000 km/h, vous voyez, c'est très vite. Je crois que le record, c'était 39 800 sur une des précédentes missions Apollo. Donc, on approche les 40 000 km/h, qui est la première vitesse cosmique pour les vaisseaux spatiaux. Hein. Oui. Voilà. Et là, il va y avoir un point important, c'est lorsqu'on va perdre l'attraction terrestre, mais qu'on va commencer à avoir l'attraction lunaire.
Voilà.
Et là, donc Buzz Aldrin va dire, oh là, c'est un moment extraordinairement calme. Hein, ce moment de transfert, là, il a traduit un petit peu son émotion en disant, c'est un moment très calme.
Calme à quel point de vue
De son ressenti. Son ressenti, c'est l'état du vaisseau, ils étaient à l'intérieur là-dedans. Alors on sait que dans les vaisseaux spatiaux, même s'il n'y a pas d'air à l'extérieur, on sent quand même quelques bruits, il y a des craquements.
C'est quoi l'ambiance? Il y a du bruit? Il y a beaucoup de bruit?
Il y a tous les appareils, des fois des petits ventilateurs qui peuvent se mettre en route.
On entend les moteurs un petit peu comme...
Non, lorsqu'on est dans le vide spatial, on ne les entend plus. On les entend bien sûr au décollage, voilà. Mais il y a un petit peu ce passage, là, c'est ce qu'il a dit, ce moment extraordinairement calme. Et ça représente bien une émotion, je dis, ce qui va sentir à l'intérieur, mais qui dit on n'est plus sur la Terre, on n'est pas encore sur la Lune.
On
peut dire que là, ces trois hommes vont se poser peut-être un gros point d'interrogation.
Donc on a quitté, on a quitté la rive, on arrive dans la banlieue de la Lune. Et qu'est-ce qui se passe? On va directement au but ou bien
on ne peut pas plonger directement. C'est trop dangereux. Donc on va se mettre en orbite lunaire.
De la même manière qu'on a tourné autour de la Terre.
On va ralentir, hein, puisque de 40 000, on va passer
à ça. Comment on ralentit avec...
Rétrofusée. Hein, on va mettre en route. Alors, il y a toutes les procédures d'allumage de moteur. Et donc, il y a le tangage, il y a le roulis et il y a le lacet. C'est les trois mouvements qui sont dans un vaisseau spatial. Hein. On n'est plus sur un bateau, mais sur un vaisseau. Hein, un vaisseau spatial. Donc, c'est trois mouvements. Et là, il faut que ces trois mouvements soient bien maîtrisés.
Oui, parce que si on va trop vite, on échappe à la Lune.
Alors, effectivement, on aurait pu échapper à l'orbite lunaire et partir dans l'espace, mais là donc grâce en maîtrisant ces trois paramètres, en se mettant en orbite lunaire, ralentissant, hein, de façon à ce que la Lune attrape entre guillemets ce vaisseau spatial pour le mettre en circum lunaire.
Voilà, et nous allons voir.
Et on va voir la suite.
Tout de suite. Rendez-vous avec la Lune, Jean-Michel.
Alors voilà, ces trois hommes sont en orbite autour de la Lune, en sachant que lorsqu'ils passent derrière la Lune, donc la face cachée qu'on ne voit pas, les communications radio sont coupées, hein, puisqu'à l'époque, on n'a pas l'air les satellites qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc on attend que les hommes soient bien en ligne directe par rapport à Houston, hein, le centre technique de contrôle. Et là, donc une fois que toutes les procédures sont vérifiées, on va faire la séparation de ces deux vaisseaux spatiaux.
De ces deux vaisseaux, hein, avec une cible particulière.
Alors tous ce point d'atterrissage sur la mer de la Tranquillité, Sérénité, tous ces points ont été cartographiés notamment par les missions Apollo précédentes, ont été cartographiés...
On sait où on va.
On sait où on va, notamment par des photos qui ont été faites au pic du Midi de Bigorre. Donc c'est un travail qui a duré une dizaine d'années. Hein, et voilà, on sait où on va. Et alors lorsqu'on sait où on va prendre la direction de séparer le vaisseau pour aller se poser sur le point choisi.
D'accord.
Alors, on va ralentir, hein, d'ailleurs. Alors, d'abord, ces hommes-là ont la tête à l'envers quand ils descendent sur la Lune. Alors, ça, le vaisseau va se retourner, hein, pour reposer ses quatre pattes, donc, sur la Lune. Et là, il y a toute une série de procédures. Il va arriver un petit peu en trajectoire transversale sur la Lune.
Voilà. Il y a des risques, bien entendu.
Il y a des risques. Il y a des risques. On sait où on va. On sait, qu'on n'a pas beaucoup de carburant, qu'on ne pourra pas faire trois fois le tour de la Lune avant de se poser. On sait que, il y aura très peu de carburant puisque, on dit qu'il restait que quelques secondes de carburant.
Le carburant est nécessaire pour quoi ?
Pour le moteur.
Hein, pour le moteur, pour ralentir le LEM.
Pour ralentir le LEM, pour le poser.
Voilà. Hein.
Alors, parce que sur un vaisseau spatial, vous avez des gros moteurs pour pousser, mais il y a plein de petits moteurs, justement, pour corriger tous les paramètres dont on a parlé
tout à l'heure. Voilà. Donc, on a le vaisseau qui continue à tourner autour de la Lune, avec Collins, qui est à bord, et le LEM, dans lequel ont pris place Neil Armstrong et Buzz Aldrin, qui s'est détaché et qui descend.
Il descend.
Et ces petits moteurs vont servir à amortir... Une des difficultés, c'est de ne pas arriver trop vite.
Pas arriver trop vite, voilà. Ouais. Et puis, un moment, puisque c'est Collins le pilote, Neil Armstrong qui est ingénieur de bord, qui donne toutes les paramètres de vol, d'affichage. Alors, avec un ordinateur, aujourd'hui, qui ferait sourire, je crois qu'on avait 84 kilooctets, vous voyez, et un ordinateur qui faisait 30 kilos, pour ça. Vous voyez ce qu'on a dans une clé USB aujourd'hui, donc on peut comparer. Donc voilà, il est là, il donne les paramètres, et à un moment, il s'aperçoit que dans la zone où ils veulent se poser, il y a quand même des gros cailloux, il y a des trous, donc il faut faire un petit peu cette transversalité, si on peut dire
donc,
comme ça.
Donc ils adaptent, ils font le créneau nécessaire.
Et puis ralentir doucement. Alors, on s'imagine sur un jeu vidéo avec un joystick, mais c'était pas du tout ça à l'époque, mais avec les paramètres qu'ils avaient, avec les outils qu'ils avaient, ils ont joué un petit peu à ça pour arriver à se poser comme il faut. Sur une zone plane, c'était important. Il ne fallait pas que le vaisseau ait plus de 5 degrés pour pencher.
De pente,
Il risque, s'il y avait plus, il risquait de basculer, ça aurait été catastrophique. Et là, avec quelques secondes de carburant, alors on a entendu de tous les chiffres qu'il ne restait que 5 secondes, que c'est de 10 secondes, on ne le sait pas trop à peu près, même eux ne le savaient plus, c'est que les réservoirs étaient pratiquement vides, mais ils se posent.
Oui, parce que au passage, il faut peut-être souligner que la question du poids est importante. Pourquoi pas plus de carburant, par exemple ?
On essaye dans le spatial d'alléger au maximum les choses. Et oui, parce que plus on porte de poids, plus il faut le lancer.
Bon, il reste plus grand-chose dans le bidon, mais il est 2h56.
Et on se pose.
Ce 21 juillet.
Voilà.
Et pour combien de temps ?
Alors, ils vont pas rester longtemps, parce que ça va être très très, très vite. Ils vont rester 21h36 sur la Lune pour cette première mission. Ça va être très très court. Alors, mais c'est surtout au moment de cette posée, c'est cette phrase d'Armstrong qui dit « l'aigle s'est posé ». Voilà, donc le vaisseau, c'était l'Eagle, l'aigle s'est posé. Et là, dans le monde entier, tous les gens qui sont derrière leur téléviseur, les contrôleurs qui sont à Houston, savent que deux hommes sont sur la Lune, ils se sont posés, mais maintenant, on attend la suite.
On attend la suite. Donc, le LEM est à l'UNI, c'est l'émotion, c'est l'événement, et c'est l'émotion aussi sur Terre, en particulier du côté des familles.
Des familles, et notamment de deux dames dont on ne parle pratiquement jamais dans ces missions lunaires. Je vais vous parler de Jeannette Armstrong, elle rayonne, elle dit « c'est fantastique, j'avais une carte de la Lune sur les genoux, je l'ai étudiée cratère par cratère pour trouver l'endroit où ils ont atterri », elle dit, donc c'est à l'UNI. Elle est très émue, et puis ce qu'elle dit, « l'homme qui est sur la Lune », c'est mon mari.
C'est mon mari.
Et puis Joy Aldrin assure n'avoir pu rester assise pendant l'alunissage. Je me suis levée, je me suis appuyée contre le mur. Ou plutôt, dit-elle, c'est le mur qui m'a soutenue.
Donc, voilà, bien sûr, de l'émotion sur Terre, de l'émotion sur la Lune. Et le travail commence. Donc, c'est quoi ? C'est un travail de collecte, de photographie.
D'abord, ils sont là, ils ne vont pas sortir tout de suite. Parce qu'il va falloir donc revoir toutes les procédures. Les pilotes d'avion, c'est bien toute la checklist qu'il y a avant de décoller et tout. Et bien là aussi, on s'est posé sur la Lune. Et là, on va reprendre toutes les procédures. Donc, cocher que tout va bien. Que tous les voyants sont au vert. Aujourd'hui, on a un terme en astronautique, on dit c'est nominal. À l'époque, on l'employait pas. Mais ils vont vérifier que tout est nominal. Et lorsque tout est prêt, ils vont enfiler leur combinaison, donc pour sortir sur la Lune. Donc tout a été répété au sol. Mais vous imaginez la grandeur du LEM. C'est une toute petite pièce. Pour s'appuyer, c'est pas commode. Donc ils vont s'aider mutuellement. Et là, lorsqu'ils ont le feu vert de Houston, on va ouvrir la porte. Et là, donc, le premier homme va descendre, puisque c'est Neil Armstrong. Il va descendre à reculons. Alors, c'est pas facile, puisque je peux vous dire que j'ai vu la petite trappe d'un LEM. C'est pas gros. Et avec sa combinaison spatiale, se glisser en marche arrière, descendre les 9 barreaux, et puis tout d'un coup, mettre le pied sur la Lune. Avec une surprise, parce que ça s'enfonce. On n'a pas pensé sur Terre que quand on poserait le pied sur la Lune, que
ça s'enfoncerait autant.
Ça s'enfonce. Voilà, il a cette sensation, ça s'enfonce un petit peu. Donc, cette poussière lunaire qu'on appelle le régolithe, hein, et là, donc, il va...
La Lune est molle.
La Lune, oui. Il va s'enfoncer un petit peu. Et puis, bien sûr, ce régolithe qui va fumer, on va dire, parce qu'ils en auront plein sur leur combinaison. Donc, et là, il va dire, donc, cette phrase célèbre, un petit pas pour l'homme, un bon géant pour l'humanité. Hein. On lui posera la question souvent après, est-ce que vous l'aviez préparé? Il dira oui, mais après, des membres de sa famille disent oui, il nous en avait parlé. Ah, vous voyez, c'est toutes les anecdotes qui vont après se répéter. Alors, on s'en tiendra ce que lui a dit.
En tout cas, le travail continue parce que 21h36. Au passage, comment on dort quand on va dans la Lune? On dort longtemps? On dort peu? On dort souvent?
Alors, ça, c'est toutes les procédures qui sont en cours. À certains moments, même lorsqu'on est en pilotage automatique et qu'il y a des contrôleurs au sol, que le vaisseau, donc au moment où on va le dire, ils pouvaient dormir tous les trois. Sans aucun souci. Et s'il y a un incident sur le vaisseau spatial, il y a des alarmes sonores qui retentissent. Voilà.
Voilà, donc la collecte, on connaît, on sait qu'ils en ont ramené, d'autres après eux...
Alors 21,55 kg sont notés
De matière.
Alors ce que je vous dis là sur ces chiffres-là, ce sont des chiffres qui ont été publiés en 1969. Donc je pense que ceux-ci sont peut-être plus fiables que tout parfois.
Ce sont des sources d'époque.
C'est des sources d'époque que des fois des revues qui en veulent en rajouter un petit peu.
Alors il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il faut revenir sur Terre. Donc voilà, 21h36 après, on se prépare à rejoindre
on revient,
le vaisseau.
On sait que ça a marché, on sait que les hommes... Hein, maintenant reste le retour, parce qu'il faut que le LEM puisse décoller.
Alors, c'est pas gagné.
C'est pas gagné, le LEM est en deux parties. Hein, on va laisser sur la Lune
tout ce qui n'est pas inutile.
Voilà, on va tout jeter sur la Lune. C'est là où un petit peu dommage parce que l'homme déjà dans son premier déplacement commence à laisser ses poubelles.
Voilà.
Donc c'est comme ça que ça se passe. Et là, une fois qu'on a le feu vert de Houston, hein, on va appuyer sur le bouton du départ. Alors, il y a plein de petites anecdotes qui se sont passées avant le départ. Mais bon, on va appuyer sur le bouton. Effectivement. Hop, le LEM va redécoller. C'est un hourra, bien sûr, sur Terre. On sait que ça marche. Il va rejoindre rapidement
le troisième homme, Michael Collins.
Là, la rencontre va être une chaleureuse poignée de main. Et on va revenir avec le vaisseau Apollo. Là aussi, le LEM, on n'en a plus besoin. Le premier LEM, on va l'éjecter, on va le mettre en orbite solaire. Qu'est-il devenu? Il est parti dans le fin fond de l'espace, alors dont nous parlons. Les prochains LEM, on les crachera sur la Lune, resteront sur la Lune, on les enverra s'écraser sur la Lune.
D'accord, donc même processus, on décolle, on tourne un petit peu autour de la
Tourne,
Lune.
On va se raccrocher.
Et on repart.
Et on reçoit l'ordre de prendre l'injection en direction de la Terre. Et là, voyage retour.
On approche dans la banlieue de la Terre, on quitte celle
de
la Lune.
Et
comment
là,
on se pose sur Terre?
Alors, là, c'est la capsule Apollo, uniquement, cette petite capsule. Donc, quand on voit cette fusée de 115 mètres qui est partie et ce qui revient, une petite capsule Apollo, c'est pas très grand. J'en ai vu une, donc ça fait 3,50 mètres de diamètre
oui,
à peu près.
C'est
pas très gros. Trois sièges confortables. Ce qui m'avait surpris dans cette capsule Apollo, c'est le nombre de boutons qu'il y avait au plafond et la modernité pour l'époque. Hein, quand on voit des outils d'aujourd'hui, on imagine ces centaines de petits boutons au plafond qui ont l'occasion d'appuyer. Et là, donc la capsule va traverser les couches d'anges d'atmosphère. Elle va rougir, bien sûr, chauffer. Et là, on va ouvrir les parachutes. On va se poser dans l'océan Pacifique.
Voilà. Donc, on les récupère.
Alors,
c'est pas la fête tout de suite. Ce sera une fête exceptionnelle.
Donc, le porte-avions, l'USS Hornet, est là, dans le Pacifique. On envoie les hélicoptères. On va très vite ceinturer avec des bouées la capsule. Hein. Et là, on va récupérer les hommes. Mais j'allais dire, on va les mettre en boîte. Hein. On va les isoler
en
quarantaine de l'atmosphère terrestre. Pendant plus de 3 semaines, donc pour vérifier qu'ils n'ont ramené rien au niveau contamination.
En tout cas, au bout de 40 jours, ils sont libérés et la foule les acclame.
C'est la liesse dans les rues de New York, il y aura un défilé. Et très vite, Apollo 11, on va tout de suite préparer la mission Apollo 12 et les suivantes.
Voilà, on aura l'occasion dans de prochaines émissions de développer un petit peu toutes les missions qui ont suivi, puisqu'en fait, il y a eu un avant, mais l'après Apollo 11 est quand même exceptionnel aussi. À bien des égards.
Et puis, comme vous l'avez dit au départ de l'émission, c'est le cinquantenaire, donc il fallait insister un petit peu là-dessus.
Voilà. C'est une belle épopée, bien entendu. C'est un témoignage passionné, on le sent, Jean-Michel. En tout cas, Ce cinquantenaire sera fêté au Puy-en-Velay, puisque le 12 juillet au Puy-en-Velay, il va y avoir une journée consacrée aux 50 ans.
Donc, conférence sur ces missions lunaires,
à la canopée.
Donc,
voilà. Oui. Plus une observation sur la place du Breuil.
Sur la place du Breuil, donc après la conférence ce soir, observation de la Lune. Et là aussi, on pourra revenir un peu sur toutes les missions Apollo,
On aura le
sur
de...
des événements qui
donc,
se sont passés.
Le 12 juillet, la conférence est à 18h.
20h.
À 20h, pardon.
20h.
18h,
à la canopée.
Le 12 juillet à 20h à la canopée. Et à partir de 22h à la nuit, observation de la Lune avec Orion. Puisque l'on parle d'Orion, eh bien aussi, signalons pour terminer que la saison d'été commence et que chaque semaine, il y a une soirée publique, donc ouverte au public, avec des conférences, avec des ateliers pour mieux comprendre la mécanique céleste, la densité, combien on pèse sur la Lune, par exemple, etc. Et puis, bien entendu, des séances d'observation, soit à l'observatoire, soit autour de télescopes ou de lunettes, voire à la jumelle, voire à l'œil nu. Il y a de belles choses à voir. Et ça se passe à Saint-Julien-Chapteuil, sur le site de l'Observatoire du BETS.
Voilà.
Nous vous y donnons rendez-vous.
Oui, et toutes nos informations, donc vous venez de dire, Gérard, sont à retrouver sur www.orion43.fr.
Voilà, on vous souhaite un bel été à tous et à toutes. Rendez-vous cet automne.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.